Vous écoutez l'épisode 120 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Connu plus pour ses services que pour son matériel, Google a progressivement avancé ses pieds sur l'échiquier du hardware. Aujourd'hui, la firme américaine est partout sur Internet comme dans nos foyers. Dans cet épisode, nous vous proposons de faire un tour des nouveautés hardware proposées par le géant de Mountain View et nous nous intéresserons également à l'engagement de Google sur la pollution numérique. Bien sûr, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir notre coup de cœur. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné pour cet épisode d'Alexandra Coutelet. Bonsoir Alexandra, comment vas-tu ce soir?
Bonsoir Nicolas, ça va bien. Moi, c'est l'après-midi ici. Ah oui, donc, l'après-midi. Bon après-midi ou bonsoir.
Bonsoir. Alors, on va faire un petit tour rapide de tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à Mister Robot, à Stéphane, à Mesiana, à Actutech, à Mathieu. Ah, bah t'as un compère de chez toi. Bonsoir Mathieu. Dominique. Bonsoir à vous tous. Alors, n'hésitez pas, hein, si le sujet vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez un point de vue également à partager, de nous les laisser dans le chat. On sera heureux de rebondir dessus avec Alexandra. On a déjà énormément de choses à vous dire. Vive le Québec, oui, vive le Québec. On a énormément de choses à vous dire. Et bien sûr, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Alors, évidemment, n'oubliez pas le CKB Show, My Chromebook, tout ça existe grâce à vous et à votre soutien. Alors que ça soit un soutien classique, hein, en échange sur les réseaux sociaux, en partageant nos contenus ou en devenant patriote sur patreon.com/mychromebook en nous soutenant financièrement. Sachez que le CKB Show et My Chromebook restent gratuits, évidemment. Mais si vous voulez échanger avec nous et entre vous, si vous voulez nous soutenir, il y a le patreon.com/mychromebook, il y a le partage sur les différents réseaux sociaux et bien sûr vous pouvez aussi aller sur nos différents salons dans le Discord de My Chromebook où vous allez pouvoir échanger avec des passionnés autour de Chrome OS, de Chromebook, de tout ce qui gravite autour de Google. Vous verrez, la communauté est exceptionnelle, on est beaucoup, j'ai perdu le chiffre mais je suis sûr que certains vont nous le donner très très rapidement. Bah, tu vois déjà directement le Québec libre vient en force. Merci Matt pour ton super sticker de nous soutenir en direct live, hein, si vous voulez faire comme Mathieu, n'hésitez pas à nous soutenir avec des stickers, des super stickers. Alors, merci à toi, Mathieu, pour ton soutien. Problème pour le retour de son, me dit-on. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas pour toi, Alexandra, tu me diras si jamais j'ai mon son qui est encore mauvais, parce que ça arrive de temps en temps, je fais des bourdes avec mon son.
Moi, ça allait de mon côté, mais...
Ah, bon, bah nickel alors. De toute façon, j'ai un double enregistrement au cas où cette fois, je ceinture et bretelle. Hein. Donc, c'est cool. Merci Actutech pour ton abonnement à My Chromebook offert directement. Bah, décidément, ce soir, ça commence très très bien. Merci à vous tous. Merci Romain de nous soutenir. Alors, le programme est super chargé, Alexandra, et tu es la personne que je devais contacter parce que tu as assisté à un événement exceptionnel. Je suis certain que tu vas nous en parler parce que d'après les photos qu'on voit, d'après tes retours sur les différents réseaux, tu as vraiment apprécié ce rendez-vous. Et bah, du coup, on va enchaîner rapidement en parlant des Chromebook Plus. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire rapidement comme ça? Chromebook Plus, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Google a commencé à rajouter un symbole à la fin de Chromebook? Je ne comprends pas bien l'intérêt. D'ailleurs, j'ai un coup de gueule à passer juste après notre échange.
Ben, le Chromebook Plus a été annoncé, je crois que c'est il y a 2 semaines. L'idée, c'est vraiment d'amener des Chromebooks avec plus de capacité, disons-le comme ça, de pouvoir identifier des Chromebooks. Moi, j'étais à un événement il y a quelques semaines à Sunnyvale, en Californie. Donc, dans les bureaux de Google, on était accueillis pendant 3 jours. C'était un événement en éducation et on nous a présenté les Chromebook Plus comme une option pour les enseignants. Donc, des Chromebooks faits pour l'enseignant et non le modèle élève. Donc, je pense qu'ici, on essaie vraiment de changer la mentalité qu'un Chromebook, c'est un appareil peu cher, qu'on ne fait que naviguer sur le web. On veut montrer que c'est plus puissant que ça, de là le plus, j'imagine. Donc, voilà.
Ouais, ça doit être ça, effectivement, le petit plus du Chromebook. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'il monte en gamme, le Chromebook n'est pas forcément beaucoup plus cher malgré tout. Hein. On trouve des produits à 300-400 euros qui sont classifiés Chromebook Plus parce que ce n'est pas uniquement réservé aux nouveaux produits. Et d'ailleurs, tu m'avais corrigé dans le conducteur parce que certains Chromebook Plus sont déjà en vente depuis un moment.
Oui, oui.
Chromebook. Alors, je n'ai pas la liste en tête, mais le 714, par exemple, de chez Acer, c'est sûr, le 515 également, ou le 514, je ne sais plus, sont déjà des Chromebooks. Donc, à partir de 300-400 €, on trouve déjà des produits classifiés Chromebook Plus. L'intérêt de ces Chromebook Plus, tu l'as dit, c'est le petit plus. Alors, Google, avant, en disant simplement, c'est deux fois plus rapide, c'est deux fois plus puissant. En gros, ils ont fait x2. Hein. Ils n'auraient pas dû l'appeler Chromebook Plus, mais Chromebook.
x2. Oui.
C'est ça. Mais ils ont fait x2 et ils accompagnent également le Chromebook de caractéristiques bien spécifiques. Donc, pour être classifié Chromebook Plus, en gros, il faut qu'il y ait un Intel Core i3 de 12e génération, évidemment, qu'il soit au minimum 12e génération, après s'il y a plus, tant mieux, ou un AMD Ryzen 3 série 7000, ou bien supérieur à ça, et puis minimum 8Go de RAM. Je pense que même maintenant, n'importe quel Chromebook, c'est mieux d'avoir 8Go de RAM, hein, même si avec 4, ça fonctionne très bien. 8, ça commence à être un des minimums vitaux. Une capacité de stockage de 128Go, et on pourra peut-être parler de cette capacité de stockage, parce que dans mes souvenirs, Chrome OS, on parlait pas trop de stockage local, et là, d'un seul coup, ils mettent 128Go de mémoire. Donc, c'est plutôt bluffant. Et puis, on voit qu'on axe sur l'éducation, le professionnel, puisqu'on y met une webcam minimum en 1080p. Effectivement, il faut qu'elle soit belle, il faut que ça soit une belle image, qu'elle puisse nous suivre, qu'elle puisse réduire le bruit temporel, le son. Et puis, évidemment, un écran full HD IPS. Bah oui, hein, tant qu'avoir une belle webcam, autant se voir très, très beau. Et donc, ça permet de travailler plus le son, l'image. Et puis, le stockage, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu sais pourquoi ils mettent 128Go de mémoire minimum?
On n'a pas parlé exactement de ça, mais ils ont mis beaucoup l'emphase aussi sur le fait qu'on peut travailler hors ligne. Parce qu'un des mythes, c'est qu'avec un Chromebook, si on n'a pas une connexion stable ou autre, on ne peut plus rien faire. C'est une brique qui ne sert plus à rien. Donc, je crois qu'on veut amener ce côté-là de faire réfléchir de oui, il y a du stockage, oui, ça s'utilise hors ligne. Je pense qu'on a voulu déboulonner beaucoup de mythes. On ne peut pas faire de montage vidéo, on ne peut pas faire de montage photo. Donc, l'appellation plus, parce que comme tu l'as dit, ça se peut qu'on ait déjà entre les mains un Chromebook plus. C'est pas simplement voici une nouvelle gamme de modèles, c'est voici des spécifications qui vous disent que ces mythes-là n'existent pas avec le Chromebook. Donc, je pense qu'on a voulu un peu rassurer les gens de ce côté-là avec une appellation. Je sais pas si ça te rassure, toi, de ton côté, mais...
Alors, je comprends l'idée, je comprends la classification. Hein. Les constructeurs de téléphones le font déjà. Hein. Les Pixel Pro ou les iPhone Plus ou Pro, ils ont tous une classification de produits. Ça rassure les gens en se classifiant, en se disant « Tiens, moi, j'ai le très, très haut de gamme parce que je peux, parce que j'en ai besoin. » Ou moi, j'ai des besoins plus légitimes, plus simples, donc je vais passer sur une gamme différente. C'est plutôt intéressant. Alors, dans la gamme Chromebook Plus, Google n'a pas juste rajouté des caractéristiques techniques brutes. Hein. Ils sont allés rajouter des fonctionnalités, et c'est en là que je vais taper un petit coup de gueule tout à l'heure. Ils ont rajouté deux, trois fonctions qui sont plutôt intéressantes, hein, qui sont, par exemple, donc des applications Google qui vont intégrer directement avec des capacités d'intelligence artificielle. On le sait aujourd'hui, Google avec Google Bards, mais plein d'autres, hein, Duet AI, je ne sais plus en français, en anglais, je mélange tout, avec la possibilité d'avoir dans Google Photo Magic Eraser, qui est plutôt bluffant, je l'utilise souvent, ou des partenariats très poussés avec Adobe Photoshop qui arrive, qui est enfin disponible sur le web et du coup, sur nos Chromebooks, et moi je l'utilise, j'ai un abonnement payant à Adobe Photoshop, pardon. Moi je trouve ça impressionnant. Jamais j'aurais pensé un jour utiliser Adobe Photo sur mon Chromebook avec de l'intelligence artificielle qui plus est. Et tout ça, c'est des fonctionnalités qui vont accompagner en fait les Chromebooks Plus. Mais bon. Il faut savoir que déjà pas mal sont fonctionnels. Hein. Si tu as un abonnement Google One, par exemple, Magic Eraser. Ah, je vais dire une bêtise. Magic Eraser, est-ce qu'il est disponible sur un Google Photo via l'application Android sur Chromebook? Je ne sais pas, Joker. J'ai un doute.
J'ai un doute moi aussi.
Par contre, Photoshop, je l'utilise sur mon Chromebook qui n'est pas considéré comme un Chromebook Plus. Donc, ce qui est plutôt intéressant. plein de choses qui viennent agrémenter donc cette gamme. Et moi, je trouve ça vraiment sympa d'avoir une gamme et montrer en avance, oui, vous pouvez faire tout ça, de l'intelligence artificielle, de la retouche de photos, de la retouche vidéo, du montage vidéo avec LumaFusion. Je pense que vous en avez parlé. Enfin, ça fait partie des produits Google aime bien mettre en avant parce que ça marche très bien. Et puis, une chose exceptionnelle, et ça, tu m'en as parlé, Chromebook Plus arrive pas tout seul. Il arrive avec une mise à jour intéressante parce que Google a expliqué que tous ces Chromebooks sortis à partir de 2021, c'est ça, je ne me trompe pas,
exactement,
seront mis à jour pendant 10 ans. Et ça, 10 ans de mise à jour logiciel pour que ton hardware fonctionne encore, c'est juste bluffant. Et tu me disais que justement, dans votre rencontre, c'était un élément assez mis en avant par les intervenants, les différents publics qui étaient sur place.
Bien, au niveau de l'éducation, c'est sûr qu'on achète massivement des appareils. On veut essayer d'avoir le plus d'appareils disponibles possible pour un nombre d'enseignants. Donc, pour ceux qui gèrent des flottes d'appareils et qui doivent les renouveler, ça, c'est une nouvelle qui est assez intéressante. On peut s'imaginer un directeur de technologie qui a à gérer des centaines de milliers d'appareils dans ses établissements scolaires, puis que maintenant, c'est qu'il peut compter sur 10 ans de mise à jour de sécurité, on est ailleurs parce que il n'y aura pas à s'inquiéter de ce côté-là, ça va continuer de fonctionner. Par contre, j'amène un bémol, c'est pas un coup de gueule, mais c'est certain que pour moi comme individu, conserver mon appareil pendant 10 ans, il se peut que je change un peu plus rapidement malgré le tout parce que la technologie évolue. Je te donnais comme exemple avant qu'on se rencontre, si j'ai encore un téléphone flip, je pourrais pas faire de la réalité augmentée, j'aurais pas mais il va encore faire un téléphone. Donc, il y a un côté entreprise qui est intéressant de garder cette mise à jour de sécurité. À quoi va ressembler la technologie dans 10 ans pour un élève, par exemple? Est-ce que ça va être encore quelque chose qu'on veut conserver? Donc, je trouve qu'il y a un côté qui appartient au consommateur aussi de voir jusque où, mais qui est ce mouvement-là de dire on va supporter nos appareils pendant 10 ans. Chapeau, ça peut aider longtemps à avoir un appareil fonctionnel et tout, avec peut-être certaines particularités en moins, voilà.
Oui, effectivement, puisque tu le dis très bien, l'appareil, lui, va être soutenu pendant 10 ans, mais les technologies évoluent. On le voit avec Apple qui sort son fameux masque qui veut redéfinir carrément le bureau informatique. Évidemment, dans ton ordinateur classique, avec un écran classique, des touches classiques, ça n'a pas de place, la virtualisation comme elle l'est là. Mais en attendant, aujourd'hui, on peut se dire, OK, j'investis, ça devient un investissement à long terme. Donc, le prix devient moins important, même s'il vaut 1000 euros, ça vaut plus que 100 euros à l'année. Si tu gardes évidemment 10 ans, alors 1000 dollars, pardon. Et du coup, l'investissement est moindre. Aujourd'hui, moi, pour utiliser des Chromebooks depuis 2012, fin 2011, 2012. Alors, j'ai changé plusieurs fois de Chromebook, mais ça, c'est pour le travail ou pour l'envie de changer. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas du tout pour l'écologie. Et malheureusement, je le regrette, mais à un moment, j'ai fait des choix et c'est pas toujours les bons, mais c'est comme ça.
Il y a des besoins qui vont émaner. Donc, ils vont supporter au niveau de la sécurité. Donc, l'appareil va encore sécuritaire, mais s'il y a des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle et autres qui demandent certaines capacités, elles ne seront peut-être pas disponibles si j'ai mon Chromebook d'il y a 8 ans. Mais je devrais être capable encore de naviguer sur le web et de faire des choses de base. Mais peut-être que je vais avoir une nouvelle fonctionnalité, par exemple, d'intelligence artificielle qui sera peut-être plus disponible rendu dans 8 ans. Ça, ils l'ont dit, par exemple, qu'il y aurait certaines fonctionnalités peut-être qui ne seraient pas supportées pendant 10 ans. On parle d'une mise à jour de sécurité, ce qui est déjà beaucoup parce qu'il y a plusieurs appareils qu'on est à 3-4 ans de mise à jour et c'est terminé. Voilà.
et donc, je rebondis dans le chat, il y a Mathieu, ouais. Apple et compagnie, allez voir sa chaîne exceptionnelle, qui dit ça me semble trop beau pour être vrai, surtout pour Google, une mise à jour de 10 ans. Et je comprends comprends totalement son point de vue parce que Google a tendance à mettre au cimetière pas mal d'applications. Alors, moi, je vois le cimetière un petit peu différent. C'est des expérimentations qui viennent généralement s'intégrer dans d'autres applications. Donc, ils ont testé une fonction à part et puis ils viennent l'intégrer ailleurs. On l'a avec, par exemple, j'ai pas d'exemple en tête là, mais ça va venir au fur et à mesure. Mais effectivement, Google a une tendance à détruire ses propres produits. Feu Stadia pour moi, mais peut-être que ça va revenir sur YouTube d'une autre manière. Et peut-être que la technologie va être apportée ailleurs. Et par contre, sur les Chromebooks, il y a une chose qui est intéressante. Et là, c'est Romain qui rebondit dessus. Google sur ses Chromebooks, en tout cas, en l'occurrence. Il respecte la durée des mises à jour. Je reviens sur le fait que ça fait un moment que j'ai des Chromebooks. J'ai un Chromebook, donc un R13 de chez Acer. Donc le R13, il date un petit peu, hein, il doit avoir 5 ou 6 ans maintenant. Il reçoit toujours les mises à jour aujourd'hui. Et donc, il a toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont dans un nouveau Chromebook que tu pourrais ouvrir aujourd'hui. Et il reçoit toujours les mises à jour. Donc là, il est passé en Chrome OS 117, d'ailleurs. Oui, 117. Je l'ai mis en dev, donc il est en 119. Et ce qui est bluffant, c'est que tous les matins, je reçois mes mises à jour, il est toujours fonctionnel, toujours très réactif d'ailleurs. Hein. Je l'allume, ça prend toujours que 3 à 5 secondes en fonction d'eux. Et tout fonctionne parfaitement, mon clavier fonctionne, donc j'ai pas non plus, le hardware ne m'a pas lâché. Et du coup, on est sur un produit qui dure dans le temps, alors qu'il était conçu pour avoir une mise à jour de 3 ans quand je l'avais acheté. Là, on est à 6 ans, je crois, faudrait voir le R13, le SR-R13, depuis quand il est sorti, je l'ai acheté le jour J. Hein. Et ce qui est intéressant, là j'ai un 713 donc qui a 3 ans, je dirais maintenant 4 ans, et quand Google a annoncé les 10 ans de mise à jour, je suis allé tout de suite fouiller dans les paramètres de Chrome OS à propos d'eux, et effectivement j'ai pris 3 ans supplémentaires, c'est magnifique. Mon Chromebook, à part que moi je suis un fou, donc je suis pas sûr qu'il dure aussi longtemps, mais ça c'est mon problème, je tape peut-être trop fort, un petit clin d'œil à Mister Robot sur mon clavier, je le maltraite un petit peu, je le jette dans mon sac, je ne le pose pas dans mon sac. En fait, il a plutôt une vie d'étudiant avec moi plutôt qu'une vie pépère.
Mais ça, Google n'a pas dit qu'il va survivre 10 ans à ta maltraitance. Là. C'est pas ce qu'ils ont dit. Là.
Mais du coup, tu vois, aujourd'hui, j'étais plutôt surpris de voir que ce Chromebook, il avait ses 10 ans de mise à jour, alors que quand je l'ai acheté, ce n'était pas la promesse. On m'avait promis moins. Donc, dans ce sens-là, je trouve ça beau, moi, en fait. Et très intéressant. Ils ont fait cette promesse et je veux les croire, mais ça reste Google qui a perdu toute crédibilité dans ce genre de promesse, nous dit Apple. Oui, mais sur du hardware, ils sont plutôt pas mauvais, je pense. Tu vois, je vais revenir à Stadia parce que Stadia, c'est un de mes grands regrets, Google Stadia. Ils ont fermé, ils auraient. C'est comme ça. Par contre, c'était du hardware et moi, je pensais pas qu'ils allaient fermer du hardware parce que j'ai acheté une manette de jeu, j'ai acheté des jeux, j'ai investi de l'argent dans leur groupe et ce qui est beau, c'est qu'ils ont fermé, mais ils l'ont fait de la meilleure manière possible en remboursant la totalité de ce que je leur avais donné. Parce que moi, je voulais croire en produit, j'ai payé, j'ai acheté des manettes, j'ai acheté des jeux et ils m'ont rembourser la totalité du truc. Et ça, je trouve ça très beau, même si j'aurais préféré que Stadia continue, parce que j'ai pas investi dans le vent. Et Google, moi, je pense qu'ils ont bien fait sur ce coup-là. Donc, je pense qu'ils vont pas refaire la même erreur sur tous leurs produits. Et en l'occurrence, sur les Chromebooks, je suis certain que ça va continuer. Au cas où, on sait jamais, c'est quand même Google.
C'est enregistré, donc on va pouvoir y revenir. Voilà. Dans 10 ans, vous revenez écouter l'épisode. Ouais. Si YouTube a pas disparu... voilà, on reviendra voir. Mais effectivement, il y a des applications, des outils de Google qui disparaissent, mais ce côté-là de mise à jour, de sécurité, moi, je tends à y croire. Nous, en éducation, on a perdu récemment, c'était la grosse affaire, Jamboard, qui s'en va. Ouais. Mais qui honnêtement répondait à un public très scolaire. Je pense pas qu'il y a grand monde en entreprise qui se sont lancés dans Jamboard. On était plutôt dans des outils comme Miro et autres. Puis je vois beaucoup de collaborations externes de Google aussi, de supporter ces applications-là. Tu as parlé d'Adobe tantôt, Miro, Lucid Spark aussi que j'ai entendu. Donc, de s'assurer que leur environnement, que Google Meet, par exemple, fonctionne bien avec les applications tierces. Ça, je pense que c'est une avenue qu'ils explorent de plus en plus. Et bien, là, après, si est-ce que Adobe ferme, là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est on n'a pas de garantie 10 ans non plus, surtout toutes ces compagnies.
Donc... Non, et surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive, ça peut être des sociétés qui peuvent risquer d'avoir de plus en plus de gros concurrents, de bons concurrents. Ouais. Jusqu'à présent, ils étaient quand même plutôt tranquilles, Adobe. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'énervent en signant des partenariats avec Google, justement, pour être sur les Chromebooks, parce que les Chromebooks, l'air de rien, commencent à prendre beaucoup de parts de marché, de plus en plus. Alors, c'est anecdotique face à Apple ou à Microsoft, mais c'est un produit qui a seulement 10 ans contre 30 ans pour les autres, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et on le voit, je vois Arthur, bonjour Arthur, qui me dit « J'attends un Pixelbook pour passer à Chrome OS, mais les Chromebooks me donnent de plus en plus envie. » Alors, je pense que tu vas attendre longtemps un Pixelbook, donc essaye d'aller voir chez Acer, chez Asus, chez HP, chez Lenovo. Ils ont des produits assez exceptionnels. Alors moi, j'ai beaucoup de Acer de par nos échanges avec le groupe Acer. C'est le seul en France qui communique beaucoup. Mais il y a beaucoup de produits hyper intéressants chez Google, enfin avec Chrome OS, qui marchent très, très bien. Moi, j'adore le tactile, j'adore le stylet, l'USI, j'adore toutes ces choses-là qui sont intégrées nativement dans la plupart des Chromebooks. Donc, n'attends pas un Pixelbook. Va voir un produit qui te plaît. Choisis un produit avec du PCR, tu vois, un produit avec du recyclage qui va durer 10 ans. Et c'est là où l'écologie est énorme chez Google. La durabilité est énorme parce qu'ils s'associent avec des partenaires qui ont aussi cette envie de faire perdurer leurs produits. Acer, en l'occurrence, travaille avec la plupart de leurs produits sont déjà des produits recyclés pour fabriquer leur Chromebook. Donc, ça, c'est juste bluffant. Les composants sont des composants, s'ils tombent en panne, en fait, c'est eux qui le réparent avec des composants qu'ils ont déjà récupérés, qui vont venir te ressouder sur ta carte mère si tu as un problème. Voilà, un bon produit chez Google, il y en a plein, mais c'est chez leurs partenaires. Donc, beaucoup de partenaires Adobe, génial, franchement, j'adore. Après, toi, t'as quoi comme Chromebook? Ils t'en ont pas donné un en partant? Ils t'ont pas dit, tiens, prenez un Chromebook Plus en partant?
Madame. On aurait aimé, tout le monde l'a demandé. Ils nous en ont prêté un pendant 3 jours. Mais la raison pourquoi ils nous en ont prêté un, c'est qu'ils nous avaient mis tout ce qui était alpha et bêta dessus avec les essais. Donc, on pouvait pas repartir avec le tout. Là, on avait accès à des choses qui sont pas encore en place, de l'intelligence artificielle dans des Google Meet et des toutes sortes de choses. Mais non, on pouvait pas ces questions éthiques, c'est déjà en éducation, donc ce serait du lobbying que de nous donner le tout. Donc, on a fait beaucoup de blagues d'essayer de se sauver avec les Chromebooks, mais on a tout remis à la fin et au retour. Ce qui nous avait fait essayer, c'était un Acer aussi. Les gens de chez Acer étaient là aussi avec le petit stylet intégré caché dans le Chromebook. Ouais. Donc, j'essaie de retrouver le modèle, je vous le trouverez. Mais c'était bien, c'était surtout bien d'avoir accès à tout l'environnement en démo à l'avance. Donc voilà.
Mathieu nous dit, le problème, je trouve, c'est que la promesse peut tenir sur le soft, mais pensez-vous qu'Acer, Asus, etc. vont garder les pièces pour réparer? En l'occurrence, ils s'y engagent également sur pas mal de produits parce qu'ils ont signé un partenariat avec Google, et Google s'est engagé à travailler par exemple avec iFixit pour réparer les produits, pour garder des pièces détachées disponibles. Et Acer, en tout cas en France, a vraiment un centre de réparation dédié à ça, et ils ont mis en avant le fait qu'ils allaient garder des pièces très 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 longtemps. Alors, à quel point, je ne sais pas, parce que les modèles, il y a beaucoup plus de modèles que chez Apple, par exemple, où il y a quelques modèles qui sortent, alors qu'Acer, c'est 10 modèles par an. Est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent être recyclées d'un produit à un autre, d'une gamme à une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils s'y ont engagé, et on le verra aussi sur la gamme des smartphones. Donc là où Google est vraiment maître du hardware et du software, ils s'y ont engagés également dans la réparabilité, rendre réparable leurs produits le plus longtemps possible. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ouais, les Chromebooks, franchement, vous allez voir, ils vont prendre de plus en plus de place, ils sont de plus en plus résistants, un énorme militaire pour les étudiants. Ils sont faits de matériaux recyclés, ils vont durer 10 ans en software, les constructeurs vont tout faire pour faire ça. Mais moi, j'ai un problème. Oui, parce que sinon, ce n'est pas amusant. J'ai quand même un problème sur cette fameuse segmentation des Chromebook Plus. Je ne suis pas contre l'idée du Chromebook Plus en soi. Ça me va très bien d'ailleurs au départ. Sur la première lecture, je me suis dit « Ah, c'est bien, enfin, ils vont expliquer aux gens que ce n'est pas de l'entrée de gamme. » Et puis, j'ai réfléchi. Oui, parce que ça m'arrive de temps à autre. Et en l'occurrence, je me suis dit, OK, jusqu'à présent, quand quelqu'un me posait une question, me disait, tiens, quel Chromebook peut m'être utile à, quel Chromebook peut être fonctionnel pour les différentes activités que j'ai. Et je lui disais, peu importe le Chromebook finalement, prends le Chromebook qui te convient le mieux, pas au niveau software, parce que de toute façon, ils font tous la même chose. Par contre, si tu as besoin d'un 17 pouces, bah, va chercher un produit en 17 pouces si tu préfères être à l'aise sur ton écran. Si c'est plus de la mobilité, peut-être vise un 11, 12, 13 pouces maximum, parce que quand tu commences à avoir du 15 pouces, c'est difficile à transporter. Si tu veux faire du jeu vidéo, mais même 4 gigas, ça te suffit, parce que les applications Android sont pas si lourdes que ça, elles fonctionnent sur un smartphone, je rappelle, hein. Ou simplement le cloud gaming, très simple. Et puis, tout ce qui est traitement de texte, de toute façon, on n'a pas besoin de quelque chose de très puissant. Et puis, ils m'ont sorti les Chromebook Plus en me disant, ben ouais, ceux-là, ils auront des fonctionnalités différentes, plus fortes, plus intéressantes. On l'a dit au début, hein. Par exemple, le Magic Eraser, le fait de modifier une photo en live, en direct quasiment, avec un coup de pinceau, tu déplaces un élément, tu supprimes un élément, et tu vas avoir une fonctionnalité qui s'appelle la synchronisation de fichiers hors ligne, sans que tu n'aies rien à faire, à part avoir à cocher une fois pour toutes que tous tes fichiers sur Google Drive, soient synchronisés automatiquement sans que tu t'en soucies. Alors qu'aujourd'hui, tu dois aller par dossier, par fichier, les rendre disponibles hors ligne. Alors moi, j'ai fait un dossier, je glisse tout dedans, hein, comme ça. J'ai qu'un dossier, j'ai tout mis en hors ligne. Mais c'est quelque chose que j'ai fait. Avant, je pouvais dire à tout le monde, vas-y, fais, tu peux le faire avec n'importe lequel. Demain, bah, c'est plus le cas. Demain, je vais avoir un changement complètement de réflexion à avoir en lui disant, est-ce que tu veux plus d'intelligence artificielle? Dans ce cas-là, va sur les Chromebook Plus, parce que tu n'auras pas accès à l'intelligence artificielle de Google avec tes produits. Alors, peut-être que ce n'est pas assez puissant, effectivement. Peut-être que s'il leur avait donné l'accès à l'IA de Google, l'appareil n'aurait pas supporté la charge de travail, peut-être. Par contre, les autres fonctionnalités, enfin, Magic Eraser, il me semble que ça tourne bien sur un smartphone, donc pourquoi ça ne pourrait pas tourner sur mon Chromebook? Donc, du coup, moi, je suis un peu déçu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que ces segmentations, d'un côté, c'est bien parce que ça remet l'église au milieu du village, mais ça va segmenter le marché et ça va complexifier la recherche de Chromebook.
C'était déjà un peu complexe, je trouvais, parce qu'on avait certains modèles. Moi, je me souviens des premiers Chromebooks que j'ai eus, c'est il y a plus de 8 ans en classe. C'était des modèles qu'on avait payés en canadien 180 $. C'était très, très peu cher. Oui. Mais ces mêmes Chromebooks-là, qui fonctionnaient encore pendant la pandémie, supportaient très mal la visioconférence. L'image n'était pas très claire. Donc, les élèves qui sont partis à la maison avec ces Chromebooks-là, c'était pas le bon Chromebook pour le type de tâche. Elle l'était quand ils étaient en classe puis qu'ils consultaient des documents seulement, mais sans plus. Et on avait déjà un peu plusieurs gammes. C'était déjà complexe, j'avais déjà pas quoi proposer, parce que pour moi, ben je suis un peu d'accord avec toi, j'aimerais bien, on peut pas avoir un modèle, voici les spécifications et voici ce qu'est un Chromebook. Là, on commence à avoir encore plus, donc là, est-ce que j'ai une quatrième gamme? On avait le petit modèle étudiant, on avait le modèle moyen de gamme, on avait le modèle plus fort, et là, on a les plus, donc est-ce que je suis rendue avec plus fort que plus fort? Je suis rendue avec comme 4 modèles, ça va me prendre, il faudrait, si Google nous écoute, là, ça nous prendrait une liste avec des cases à cocher pour demander à la personne, bon, que fais-tu avec ton Chromebook? Moi, personnellement, la fonctionnalité hors ligne, je la comprends peu. Je n'ai pas une maison dans les bois, donc j'ai toujours de l'Internet. Donc, quand on essaie de me dire que j'ai besoin de beaucoup de stockage parce que si je suis en avion, bon, ça m'arrive pas si souvent que ça. Donc, faudrait que je coche, puis que finalement, peut-être que le milieu de gamme serait suffisant. J'ai hâte de voir aussi les prix qui vont évoluer. Tu as parlé de 399 €. OK, mais j'en vois aussi à plus de 1 000 €. Ouais. Donc, pourquoi je paye pour un puis pour l'autre? Est-ce que Photoshop fonctionne vraiment mieux sur celui à 1 000 € ou est-ce que je suis quand même capable d'aller faire du montage d'images? C'est ce que j'ai hâte de voir. Mais effectivement, ça en fait beaucoup de modèles à décortiquer le tout. Lequel je prends, c'est pas évident.
Et après, il y a Mathieu qui nous dit dans le chat, la segmentation était là, mais pas très claire finalement. Mm-hmm. C'était pas facile d'expliquer à quelqu'un, finalement, bah, pour 300 euros, tu fais la même chose que pour 1000 euros. Bah, pourquoi j'achète un truc à 1000 balles ?
Exact.
Et c'est, voilà, je suis d'accord avec toi, hein, du coup, Matt, mais... Après, il y a plein de choses, tu vois, les 128 gigas, ça a un coût. Alors, je vais revenir dessus, oui. Parce que moi, je prends le train trop souvent, je trouve, et le train, c'est une horreur pour travailler. L'avion, au moins, tu sais que t'as rien parce que t'es là-haut. Mais ouais. Moi, de temps en temps, j'ai quelque chose quand même dans le train.
Donc le temps, toi, il y a un besoin. Tandis voilà. Que moi, je le vois pas le besoin. Qu'est-ce que je vais payer plus cher pour avoir ça? Tandis que la visioconférence, pour moi, va être super importante. Puis d'avoir les outils. Puis de, tandis que si t'es dans le train, j'imagine que la visioconférence pour toi est moins intéressante.
Donc, ça marche pas. Déjà, le téléphone tout simple, ça marche pas. Alors, la visio, je t'explique pas. Mais les 128 gigas, ça peut servir à pas mal de choses parce qu'on l'a vu, hein, les Chromebooks, ouais. Au fur et à mesure. Au début, tu l'as dit, hein, c'était un Minitel. On allait sur Internet, basta, on faisait rien. D'ailleurs, il s'appelle Chromebook parce qu'en fait, à la base, c'est Chrome. Hein, c'est un navigateur, voilà. Chrome qui fait simplement, oui. les choses. Par contre, aujourd'hui, tu as les applications Android qui commencent à prendre de la place. Tu as des, mm-hmm. applications à plusieurs gigas. Donc, si tu peux pas les stocker, tu peux pas, voilà. les utiliser. Ouais. Ouais. Tu vas avoir des Linux aussi. Alors, là, j'ai fait un test. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je vais essayer d'en faire un article et j'utilise un peu le truc. Mais il fait 66 gigas le logiciel. Alors, je ne vais sûrement pas y arriver à le faire, l'article. Mais tu vois, rien que ça, ça prend trop de place. Ouais. Et je comprends qu'au fur et à mesure, par rapport aux différentes possibilités qu'on a sur un Chromebook, avoir 32 gigas, c'est quand même un peu... On est un petit peu à l'étroit. Il y a des trucs, ouais. qu'on ne fera pas. Ouais. Donc, on va faire comme sur les consoles de jeux vidéo. Ah, je veux jouer à tes jeux. Attends, il faut que j'efface. Il faut que je fasse d'abord, ouais, de la place, okay. pour jouer à ce, ouais. jeu. Et tu vois, c'est, je comprends pas les consoles
de jeux. Tu vois,
ça
dépend vraiment beaucoup de l'utilisation. Puis les objections qu'ils entendaient toujours. Et oui, je suis très d'accord avec les pannes d'électricité. Oui, ça arrive. Mais dans ce temps-là, je prends une pause. Donc, voilà.
Faut pas que ça dure trop longtemps quand même.
Donc voilà. Mais par exemple, moi j'ai pas beaucoup d'applications, je vais directement en ligne sur la majorité de mes outils. Donc pour moi, ça serait peut-être moins besoin, alors que d'autres vont me dire non, j'ai vraiment besoin de mon application. Mais ça va devenir, c'est pour ça que je te disais, ça nous prendrait quasiment un, tu sais, ouais, là, les oui non, as-tu besoin, ouais. de oui, as-tu besoin de non. Voici
tu
le modèle.
Tu fais un Google Form et à la fin tu as le résultat. Okay, tiens.
Voilà.
Le Chromebook qui te convient,
le
c'est
Chromebook
celui-là.
Dont vous êtes le héros. Donc
<C'est ça. rire> réfère-toi à la page 83. OK, super.
Voici le modèle que ça nous prend.
Donc, il y a Dylan qui nous dit, ouais. Lorsqu'il sort du café, il n'y a pas forcément Internet de proposer. Alors, en France, tu as le partage de connexion avec ton smartphone, mais, ouais. oui, je peux le concevoir. Ouais. Et puis, je suis d'accord aussi avec Dylan sur les... moi, je fais beaucoup de traitement de texte. J'utilise beaucoup Google Drive, du coup, enfin Google Docs. Et c'est vrai que parfois, ben, je n'ai pas de connexion parce que le réseau est mauvais à ce moment-là, parce que le Wi-Fi s'est coupé, parce que en France, on a moins de difficultés. On n'a pas d'hydraulique, nous, donc nos centrales nucléaires fonctionnent plutôt pas mal. Et du coup, j'ai moins besoin d'avoir du hors-ligne. Mais en l'occurrence, ça m'a déjà dépanné plein de fois. Et ça justifie aussi aux gens de te dire, bah, achète un Chromebook, tu pourras l'utiliser même si tu n'as pas Internet, ouais, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça.
Et c'était un gros obstacle quand on parlait de faire le changement. C'était un des gros obstacles. Dans les dernières années, on a beaucoup misé sur la sécurité du Chromebook. C'était toutes les publicités qu'on voyait, pas de virus, sécurité et tout. Mais moi, à chaque fois, on me revenait avec, mais je peux pas travailler hors ligne, mais je peux pas installer des choses dessus. On voit que là, on peut installer des applications. Les arguments, on dirait qu'ils sont venus essayer de miser un peu plus sur les arguments. C'est pas assez fort pour faire de la visioconférence, ben là, c'est les arguments que j'entendais, ben, je vais leur dire plus.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Mais c'est ça, on fait tellement de choses maintenant avec un Chromebook. Et surtout maintenant que, ben, je ne sais pas si tu as testé d'ailleurs la dernière mise à jour de Chrome OS, on va revenir un petit peu dessus également, parce que finalement, elle est importante parce qu'elle a changé pas mal de choses sur un Chromebook, visuellement déjà, graphiquement. On est parti sur un produit qui me semble beaucoup plus intéressant, plus dans l'air du temps, même si au fur et à mesure, on l'a vu, hein, Google a commencé à mettre du matériel design un petit peu partout, mais ils ont enfin décidé de faire du matériel you partout, du matériel toi partout. Je sais pas comment le traduire, ce truc là, mais en gros, c'est un peu de toi dans le matériel. Ils ont fait une refonte graphique complète, et Chrome OS 117, je crois que c'est Jean-Luc dans le salon Discord qui nous disait que ça allait faire date, parce qu'en fait, ils ont vraiment modifié en profondeur l'interface visuelle et graphique de Chrome OS. pour vous en citer quelques-unes, je ne vais pas m'attarder parce que c'est très visuel, donc c'est compliqué à l'oral de vous en parler, mais typiquement, on a le lanceur, comment on appelle ça, le menu d'état, le menu de paramètres rapides, tu sais, quand tu cliques sur l'horloge en bas à droite, qui est devenu un espèce de panneau avec des tuiles, un petit peu comme le panneau des notifications des paramètres rapides d'Android, où tu vois ces tuiles, tu appuies dessus, c'est vraiment très joli, tu en mets beaucoup plus dedans. Ils ont tout modifié, même les curseurs se sont arrondis, ont plus de finesse et viennent coller à la couleur de ton fond d'écran grâce aux paramètres, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Bref, quand tu changes ton fond d'écran, tu as une couleur adaptative, je crois, qui vient vérifier les trois couleurs primaires les plus importantes de ton fond d'écran. Et il va te proposer de faire ça sur la totalité de ton
écran.
Comme
ils le font sur le téléphone aussi. Là, exact. Fait que c'est vraiment, ils sont venus agencer un peu l'expérience Chrome dans nos différents appareils, je trouve. On se retrouve plus facilement.
Et il y a Ryan qui nous dit « Le nouvel esthétique sur les Chromebooks m'a tellement choqué, carrément tellement choqué, tu vois. » Mais c'est vrai, j'ai allumé mon Chromebook et j'ai juste été super content qu'ils aient fait ça. Donc tu vois, ça plaît à du monde. Merci Ryan pour ton retour. Mais moi aussi, ça m'a plu. Moi, il y a longtemps que je l'ai. Alors j'ai moins la hype aujourd'hui parce que je suis en dev depuis un petit moment. Je suis passé en Canary, ils l'avaient déjà. Mais ils ont changé pas mal de choses. Même l'interface, alors je crois que ça, c'est encore en développement, mais… Ils ont copié Apple, il ne faut pas le dire. Mais les fenêtres, tu peux arrondir les angles. Alors, ça a l'air de rien. Sincèrement, ça a l'air de rien, mais c'est tellement bien. Ça faisait mal, ces coins pointus, là. Là, ils ont arrondi les coins de toutes les fenêtres et je trouve ça bien. Et tu vas pouvoir choisir, alors pour l'instant, c'est un flag, mais tu peux choisir le rayon de tes angles et je trouve ça vraiment bien fait. Ça apporte quelque chose de plus cocooning, de plus couffin, de plus, un petit nuage. Donc, ils ont changé ça. Les paramètres rapides, je l'ai dit, la fonctionnalité Wi-Fi est beaucoup plus intéressante. Tu as le panneau aussi… augmentation du volume et de la luminosité, quand tu cliques dessus, tu as accès à plus de fonctionnalités. Par exemple, dans la luminosité, ils n'ont pas tout mis comme ça en vrac dans le paramètre rapide. Quand tu cliques sur le petit icône de luminosité, tu as accès à un nouveau panneau donc, qui remplace le précédent. Et là, tu peux rajouter le thème sombre ou le thème nuit, comme ils appellent ça. Pour que ce soit un petit peu jaune, un petit peu bleu, enfin comme tu le souhaites, ils l'ont intégré dedans. Et ce qui fait que c'est plus logique, en fait. Tu cliques dessus, t'accèdes à cette fonctionnalité. Pareil pour le son, tu cliques sur le son et là, tu as les différents potentiomètres, j'allais dire, mais différentes petites volumes que tu peux bouger, micro entrant, sortant, casque, c'est tout rangé et c'est logique, c'est normal que ça soit comme ça et c'est vraiment super bien fait. Tu l'as reçu, je pense.
Oui, effectivement. Voilà. C'est des petits changements pour les usagers qui sont chouettes, ça n'a pas révolutionné rien, mais c'est plus simple, des fois, c'est mes changements préférés, moi, ça, quand les choses sont épurées, plus simples, moins de clics, qu'on a déplacé des choses qui sont plus logiques à l'endroit où ils sont. J'aime bien ce genre d'amélioration-là.
Il y a un truc que moi, j'aime beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en écran scindé parce que j'aime bien… Tu vois, là, par exemple, je suis scindé en trois. Le conducteur d'un côté, toi, ici, et puis en dessous, les chats. Et pour faire ça, ils ont même rajouté un système. Alors aujourd'hui, tu peux le faire. Tu baisses ta fenêtre, tu la glisses à gauche, tu la glisses à droite. Bref, tu peux organiser un petit peu ta fenêtre comme tu veux. Mais c'est chiant, c'est long. Ils ont copié Windows 11, je crois, où tu poses ta souris sur le petit carré en haut à droite près de la fenêtre où il y a la croix là, juste là, tu poses ta souris et là, il y a un petit panneau qui apparaît où ça te permet d'avoir directement l'écran scindé en deux, avec deux parties égales, avec une partie plus grande, deux tiers, un tiers, avec une partie en picture-in-picture, par exemple, ou en plein écran, comme tu veux. Et ça a l'air de rien, mais moi, ça me simplifie la vie parce que avant je scindais moi-même droite-gauche. Là, je pose dessus, puis je lui dis, tiens, je veux ça et je veux ça. Et ça apporte aussi un côté aimanté entre les fenêtres, ce qui fait que tu tires à droite ou à gauche, ça va automatiquement ajuster la page. Si vous êtes en train de nous regarder en vidéo, vous me voyez faire des gestes avec mes mains, genre chorégraphie. mais voilà, tu peux les scinder, tu peux les… Ouais, je suis un peu italien sur les bords, je sais. Et tu peux les scinder et les déplacer comme tu veux. Moi, je trouve ça vraiment vraiment sympa. D'autres choses hyper intéressantes, le support de Steam pour les gamers, tu vois, il faut de la place pour jouer, parce que si tu commences à mettre un jeu AAA, il va falloir consommer un peu de place, qui vient d'être intégré dans quelques Chromebooks. Alors attention, pas tous, hein, il faut qu'il y ait une certaine puissance quand même, parce que si tu n'es pas assez puissant, ton jeu ne fonctionnera pas. Une chose que je trouve hyper intéressante, alors il faut que je fasse attention, c'est la charge adaptative, tu sais, qui permet de garder ta batterie encore plus longtemps, puisqu'on l'a dit, ils veulent que ton Chromebook dure 10 ans. Mais si ta batterie, elle est morte au bout de 3 ans, aucun intérêt. Et avec la charge adaptative, en fait, elle va... quand tu vas brancher ton Chromebook, ça va préserver la durée de vie de la batterie en limitant la charge à 80% lorsque tu le branches. Pendant la nuit, par exemple, moi, je le branche le soir, je le récupère le lendemain matin. Alors, avec mon 713, vu que je l'ai maltraité, il faut que je charge tous les jours maintenant. Avant, je le chargeais une fois par semaine, pour te donner une idée. Et la charge adaptative va me permettre de conserver l'autonomie de ma batterie, la durée de vie de ma batterie le plus longtemps possible. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Moi, j'ai même activé le petit son quand je le branche avec... Puis quand je débranche... Ouais, bref.
Ben, tu vois, les premiers Chromebooks qu'on avait en classe, c'était notre chariot de recharge qui gérait la charge adaptative. Ouais. Et ça faisait qu'on pouvait les charger une fois semaine. J'avais 6 groupes de 30 élèves qui utilisaient les Chromebooks et on chargeait une fois semaine. C'est sûr que 4 ans plus tard, peut-être un peu moins, donc là, peut-être que ça, mais c'était quand même peut-être 2 fois semaine. Ils ont quand même duré un bon 6 à 8 ans avec une bonne batterie, donc ça prend ça d'une bonne gestion. Donc, si c'est intégré, c'est encore beaucoup mieux que de le gérer par chariot qui coûte une fortune ou d'outils externes.
Et puis de le déplacer, ouais, c'est toujours compliqué, effectivement. Exact. Pour terminer sur Chrome OS 117, aller assez rapidement dessus, une chose qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont rajouté le support d'Android 13, puisque la plupart des Chromebooks étaient encore bloqués au Android 11. Donc, en fait, c'est des nouvelles fonctionnalités, de l'ajustement de fenêtres, de choses comme ça, qui vont arriver, qui vont permettre de... je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire, mais par exemple, d'installer un fichier APK hors Play Store. Bon, bref, si vous ne savez pas de quoi j'ai parlé, tant mieux. Si vous le savez, vous vous êtes réjouis et là, vous sautez dans tous les coins de la pièce. Mais voilà, donc c'est des petits détails qui ont une importance et c'est vraiment hyper intéressant. Même le son de démarrage est génial. Bon, après, ça en fera rire certains, mais quand on est fan, effectivement, ActuTech, effectivement, Romain, merci. Mais moi, j'aime bien. Je crois que je l'avais même mis dans ma table de mixage pour faire des bruits. je sais, c'est pas toujours simple. Continuons sur un autre produit qui est arrivé il y a pas très très longtemps. Je crois que c'est début du mois d'octobre, je crois que c'est le 7-8, un truc comme ça, Google a fait donc l'annonce, la Google I.O. L'avait pas encore abordé, mais ils ont annoncé les nouveaux pixels. Leur fameux smartphone. Alors, les pixels, c'est tout un univers. Et pour moi, je crois que j'ai essayé quasiment tous les pixels depuis qu'ils existent. Alors, oui, c'est pas écologique. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est pas raisonnable. Oui, alors là, totalement.
Pourtant, ils ont une durée de vie de combien de temps? Mais toi, tu les changes aux années.
Mais oui. Et surtout que là, ils ont sorti un truc et ça va avec les Chromebooks. L'écosystème devient pérenne dans le temps, puisqu'en fait, allez, on balance l'annonce directe, ils ont annoncé 7 ans de mise à jour sur leur smartphone. Là, ils explosent le marché parce qu'il n'y a aucun autre constructeur en smartphone qui garantit 7 ans de mise à jour majeure. Je dis bien majeure, c'est-à-dire qu'on va passer d'Android 14 à Android 15, à Android 16, et je ne vous fais pas le détail, mais vous faites 14 plus 7 et vous trouverez le Android combien normalement à la fin. Et c'est juste bluffant. Donc évidemment, comme pour les Chromebooks, peut-être qu'à un moment, il y aura une limitation hardware qui fait que certaines
applications ne fonctionneront peut-être pas. On parle d'un souci de sécurité et autres. Ils ne peuvent pas garantir que tout va fonctionner pendant 7 ans, mais quand même, si côté sécuritaire, j'imagine qu'on va pouvoir encore téléphoner avec un téléphone dans 7 ans. Peut-être.
Ou pas. La téléportation aura fait que le téléphone devrait être obsolète. Mais il est sécuritaire, effectivement. Qu'est-ce qui est les grosses évolutions de ces produits, finalement? C'est qu'ils ont intégré donc la nouvelle, leur puce maison, la Tensor G3, donc qui est gravée encore plus fine, qui fait encore plus de choses, qui apporte l'intelligence artificielle dans le smartphone et plus en déporté, donc ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est principalement mis pour la photo pour l'instant. Je le teste, j'adore les pixels pour leurs photos. Toutes les photos que je fais qui sont sur le site mychromebook.fr sont des photos faites avec le Pixel, en l'occurrence 7 Pro, maintenant le 8 Pro, et elles sont juste hyper intéressante. Le Magic Eraser, c'est génial. Tu effaces ce que tu veux plus. Tu déplaces un élément. Alors ça, cette fonctionnalité, elle est folle. Tu as mal cadré ta photo parce que tu es nul comme moi en photo et ça arrive. C'est pas grave. On en survit. La preuve, je suis encore là. Eh ben, tu fais ta photo, tu lances la petite application de traitement d'image. T'appuies sur l'élément que tu veux modifier et tu le déplaces tout simplement dans ton image. Waouh, c'est impressionnant. Alors, je sais qu'il y en a qui vont détester ça parce qu'on dénature l'image, on dénature le moment. Mais franchement, moi, j'ai fait sauter mon fils au-dessus d'un pont. Waouh, jamais il aurait fait ça en vrai. Hein. C'était juste génial. J'ai fait vraiment un truc, c'est bluffant. La qualité, le ciel, tu peux le traiter d'une façon hyper simple. En cliquant sur un bouton, il va découvrir qu'il y a du ciel, et il va te le changer, la colorimétrie, pour que il fasse plus beau, parce que c'était un peu sombre. Tu peux déplacer la lumière après sur le visage d'une personne. Donc, la lumière, elle venait de gauche. Ça te fait, tu sais, moi, je suis comme ça, j'ai des rides, je vieillis, c'est pas grave, j'ai des cernes. Mais du coup, la lumière, tu sais, quand elle vient d'un certain endroit, elle ne me met pas vraiment en valeur. Donc, je déplace la lumière et d'un seul coup, je suis beau, ça change. Et tu vois, et tout ça, c'est fait en un clic et sur mon smartphone. Alors, c'était déjà possible sur le 7 Pro, mais c'est encore plus possible sur le 8 Pro. Je m'amuse vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça bluffant. Je ne sais pas si tu as des fonctionnalités qui sont arrivés qui t'ont bluffé sur les pixels.
Moi, la photo, la qualité de la photo, le zoom et tout, ça me fascine. Quand j'étais au symposium de Google, il y avait une collègue qui avait un pixel, mais qu'elle avait échappé et elle avait cassé en arrière de la caméra, mais elle arrivait quand même à prendre des photos parce que l'intelligence artificielle à l'intérieur remettait la photo claire au lieu de flou. Donc, elle prenait sa photo qui était complètement floue, mais l'IA améliorait sa photo.
C'est énorme.
Donc, elle pouvait continuer d'utiliser son pixel malgré que tout l'arrière de sa caméra était cassé à cause de l'intelligence artificielle en arrière. Bon, elle va le changer éventuellement, mais j'étais quand même fascinée de voir un appareil. C'était assis sur l'appareil et tout a cassé. Donc, on peut s'imaginer, la caméra fonctionne plus, mais non, l'IA en arrière. On nous a fait aussi des démos de pouvoir, ce que tu disais, un peu de recentrer, pouvoir qui complète l'image.
Oui, la régénération d'image. Ouais.
C'est très bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Mais je suis d'accord un peu avec ce que tu disais. On se demande où ça va mener tout ça. Là, j'entendais ce matin, est-ce que dans 10 ans ou dans 7 ans, justement, on va regarder nos souvenirs et ça va être des vrais souvenirs ou c'est toutes des choses qu'on va avoir modifiées qui n'existaient pas?
On va s'inventer des souvenirs, comme quand tu étais petite, tu te souviens, on te dit « Ah, tu sais, quand tu avais 2 ans, tu faisais ça, puis toi, tu t'en souviens. » En fait, tu l'as vécu, certes, mais tu ne t'en souviens pas.
Tu t'en souviens à travers une photo.
Voilà. Et cette photo, quand mon fils, il va voir ça, « Hey, papa, tu te souviens, avant, je volais. » Non, en fait, j'ai retouché la photo. Voilà. Et non, tu ne volais pas, en fait. Hein. C'est
effectivement. Je voyais qu'on va pouvoir changer des éléments sur la photo, dire « Retire la poubelle, mets un vase de fleurs. » Mais justement, quand on regarde les photos de quand on était jeune, on voit des éléments, là, on va avoir des éléments que c'est, on avait ça, on avait des fleurs dans la cuisine. Hein?
C'est ça.
Donc, mais c'est très impressionnant ce qu'on arrive à faire et surtout en quelques clics. Moi, ça me fascine la rapidité. Quand on voyage, je prends beaucoup de photos avec mon pixel, mais je peux rapidement retirer le fameux Magic Eraser là, qui est là depuis des années dans le pixel. Là, ouais. Que je retire la personne qui vient de passer devant la Tour Eiffel et que je ne voulais pas là et c'est terminé. Et je peux mettre ma photo sur les réseaux sociaux et voilà. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir tout ce qui vient avec le téléphone, effectivement.
Ouais. Beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. L'intelligence artificielle, ils vont mettre du Bard dans les Chromebooks d'ailleurs. Je ne sais pas si on en avait parlé, mais ils vont intégrer leur intelligence artificielle dans les Chromebooks Plus, dans le Pixel Pro, dans les Pixels également. Donc, on va avoir de plus en plus de fonctionnalités. L'assistant Google va lui aussi s'équiper d'intelligence artificielle. c'est pas, il était déjà très bon, mais avec ça, il sera meilleur. Et pour utiliser Bard, je sais que toi, tu n'as pas la chance d'utiliser Bard au quotidien. Pour utiliser Bard, il s'améliore grandement, de mieux en mieux. Là, ils viennent d'intégrer une fonctionnalité où tu colles ta photo dedans et tu peux lui poser plein de questions sur l'image que tu as donnée. Par exemple, J'ai pris une photo, je lui ai dit, analyse-moi la photo et dis-moi ce que tu en penses. Et en fait, c'était une photo j'ai pris une caractéristique technique d'un produit que j'avais là, qui était sur un magazine. J'ai pris en photo, je lui ai dit, analyse-la moi. Et il m'a sorti tout. Je fais, waouh, génial, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. D'habitude, j'étais obligé de tout retaper à la main, c'était chiant. Donc là, c'est vraiment génial. Après, au niveau produit, le Pixel, alors je l'ai pas depuis longtemps, je l'ai depuis 3 jours, donc j'ai pas forcément un retour hyper intéressant dessus, mais j'avais le 7 Pro, j'ai pas, techniquement, si vous avez le 7 Pro, ne changez pas pour le 8 Pro, ça sert à rien, à part perdre 1000 euros, je vois pas l'intérêt. Les fonctionnalités vont arriver progressivement, bon, ça sera les 7 ans de mise à jour, mais je pense que le 7 Pro, ils vont faire leur travail. Une chose intéressante, c'est que Google a énormément insisté sur la réparabilité de leurs produits, donc justement avec l'accord qu'ils ont signé avec iFixit. Si vous connaissez pas ce site, vous avez jamais voulu réparer quoi que ce soit de votre vie en électronique. Hein. Moi, je m'équipe chez eux d'écrans, de claviers, de tout. Ils vous donnent des tutoriels vidéo assez exceptionnellement bien faits, des outils de qualité. Bref, allez les voir. Je crois d'ailleurs qu'ils arrivent en France avec des magasins. Je revérifierai ça, mais il me semble que j'ai vu cette information-là passer. Et puis Google, il s'est dit, moi, mes pixels, je veux qu'ils soient réparables. Donc, ils ont signé avec eux pour des réparations, avec des kits de réparation dédiés aux Pixel Pro. Ils sont déjà disponibles, j'ai regardé ce matin. Et puis, leur pixels, ils les ont conçus, un peu comme Apple, finalement, en plastique recyclé. Alors, je crois que c'est 10% de plastique recyclé en aluminium recyclé. Par exemple, le module photo est en aluminium recyclé sur les Pixel 8 et 8 Pro. Le verre de l'écran est lui aussi recyclé. Donc c'est pas ils sont pas allés rechercher du sable qu'ils ont fondu à nouveau pour faire un écran. Non, ils ont pris un écran qu'ils ont fondu, ça revient au même, mais on n'est pas allé chercher de matériaux supplémentaires, on n'est pas allé gratter la terre encore en plus. Et ils s'engagent pour les prochains modèles, parce qu'aujourd'hui ils avancent petit à petit, c'est des bébés dans le monde du téléphone à Google. Ils s'engagent à augmenter leur taux de produits recyclés à 50% dans les prochains produits. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Belle initiative de la part de Google, sachant que Google est déjà très en avance et ils avancent bien sur leur neutralité carbone, puisque depuis 2020 ils sont neutres en carbone. Alors comment on est neutre en carbone?
C'est tout un autre épisode du podcast. Voilà.
ils utilisent de l'énergie 100% renouvelable pour leur centre de données. Ils recyclent leurs déchets à 95%, donc les pots de banane, tout ça, je pense qu'ils mettent dans un composteur, je ne sais pas comment ils font. Et voilà, bref, ils s'engagent sur l'environnement et sur la durabilité de leurs produits. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et franchement, le Pixel 8 Pro, quand je l'ai pris, il était plus lourd que l'autre, mais au quotidien, ça me donne une impression de durabilité. Franchement, déjà, il n'y a pas ce côté vert que j'avais sur le 7 Pro. À l'arrêt, il est magnifique, le 7 Pro, il n'y a rien à dire. Par contre, il y avait toujours mes traces de doigts dessus. Il y a une usure qui s'est faite sur l'appareil photo, parce que tu sais, ils ont le pare-choc pour l'appareil photo. Il s'est usé à force de le poser, parce que je n'aime pas mettre de coque. Et j'espère que ça va durer. Et en tout cas, le 8 Pro ne me donne pas la même impression au toucher, déjà. J'ai pas de traces de doigts sur mon Pixel, donc je trouve ça vraiment génial. Et puis après, je suis fan. Si vous êtes sur le Pixel 4, prenez le 8, évidemment, vous allez voir.
Moi, j'ai le 6 Pro. Je vais attendre un petit peu, mais peut-être attendre le 9 Pro, on verra. Mais tu me donnes le goût, mais des fois, il faut aussi que le consommateur attende quelques années.
Soyez prenez votre mal en patience. Si le vôtre fonctionne bien, il n'y a pas forcément grand chose sur le nouveau. Je l'ai fait parce que, comme disait ActuTech tout à l'heure, quand je parlais de changement de Chromebook régulier, c'est pour le travail, moi, que je le fais. C'est pour alimenter mychromebook.fr. OK. C'est vos patriotes qui me le payent. Ouais, tout petit peu. Mais voilà. Vortex qui nous dit, question à part, pouvons-nous utiliser Photoshop sur Chromebook? Bon, bah oui, évidemment, via l'application web. Tu remontes dans l'épisode, dans le replay, tu regarderas dans les 10-15 premières minutes. On en a parlé juste avant, tu vas voir, c'est assez étonnant. Il y a une chose qui a accompagné donc les Pixels, c'est Android 14, puisque le Pixel 8 et 8 Pro sont sortis directement avec Android 14 dedans. Tu as dû le recevoir également sur le site.
Absolument, c'est fait. Et
est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont plu, qui tu t'es dit, oh, là, ça manquait vraiment ce fond d'écran animé?
Non, rien qui a révolutionné ma vie quand même, mais j'aime bien l'écran de verrouillage où j'ai pu changer l'affichage et tout, là, pas seulement l'heure en gros, donc la date et tout. Moi, mon téléphone est toujours à côté de mon poste de travail. C'est souvent un troisième écran qui sert pour me rappeler la date parce qu'il faut que 8 fois par jour, j'aille revérifier qu'on est bien le 15 octobre et que pour répondre aux courriels. Donc, tout ce qui est personnalisation de l'écran de verrouillage, j'ai beaucoup aimé. Je suis encore à m'approprier certaines petites choses. Je ne sais pas si toi, tu utilises beaucoup là, les espèces de widgets. Je trouve que ça prend beaucoup de place. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les placer. Donc, c'est un joyeux bordel, mon téléphone, la majorité du temps.
Ah, mais oui, mais alors j'ai mis du temps à maîtriser les widgets pour mon usage. Attention, hein, ce que moi j'utilise te plaira peut-être pas. Non. Mais moi déjà, j'ai que 2 pages sur mon Pixel et beaucoup de dossiers. Et beaucoup de widgets. Donc, en fait, j'ai les widgets obligatoires. Hein, la barre Google, t'as pas le choix. J'ai mis l'heure parce qu'en fait, je me sers beaucoup du chrono. Je me sers beaucoup je me réveille comme tout le monde. Et j'utilise mon réveil. Et c'est pas une bonne solution d'utiliser son smartphone comme me réveil, mais je le fais quand même. J'ai mon agenda sur la première page. Tout le temps. Il y a le widget, tu sais, contact aussi, que je trouve génial, qui a été amélioré, où j'ai une personne que j'appelle beaucoup, madame en l'occurrence, et en fait, j'ai sa photo, et je clique dessus, et puis je peux lui envoyer soit un SMS, soit l'appeler directement, ce qui m'évite d'aller chercher dans l'agenda, et j'ai qu'elle, et puis j'ai sa photo, comme ça, je l'oublie jamais, comme ça, tu vois. et puis en bas, on a les 5, on peut mettre jusqu'à 5 icônes en bas, tout en bas de l'écran, qui restent en permanence. Peu importe quand tu scrolles dans tes différentes pages. Et moi, j'ai créé des dossiers à l'intérieur de ça où j'ai mis par thématique finalement mes usages. Alors, typiquement, je regarde beaucoup de vidéos, donc j'ai un dossier où j'ai toutes mes applications, Netflix, Amazon, machin. J'ai un autre dossier réseaux sociaux. Alors là, il est blindé parce qu'il y a 1 milliard de réseaux sociaux maintenant, mais j'ai classifié les réseaux sociaux sous le pouce. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Il est dans le dossier, donc je clique sur le dossier, puis hop, sous le pouce, hop, j'accède directement.
Elles sont toutes là.
Voilà, elles sont toutes là. Et puis, il y a une fonctionnalité que j'ai mis en avant parce que même si j'ai vu que Mathieu tout à l'heure, il disait un téléphone pour téléphoner. Ah bon, ça marche encore. J'ai quand même mis la fonction téléphone sous le pouce aussi parce que je l'utilise énormément dans mes 5 écrans. Donc, dans mes 5, j'ai combien ? Oui, j'ai 5 icônes, dont 4 dossiers et un, c'est juste le mode téléphone. Et puis, sur la deuxième page, j'ai un Notion où j'ai toutes mes... Je m'en sers comme pense-bête. Mais j'ai aussi un Google Keep. J'en avais parlé. Je me sers beaucoup de Google Keep pour... c'est une to-do list. Et je l'ai là, ainsi qu'un petit widget mail qui me permet de voir le nombre de mails que j'ai reçus. Je clique dessus, j'accède directement à ma boîte de réception. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dessus. Je ne sais pas si on voit, maintenant c'est moche, mais on ne voit pas bien, mais j'ai rien. On ne voit rien.
Non, c'est ce que je trouvais. Je trouvais que les widgets apportaient, en plus des dossiers, tu finis que tu vas à la page 4 pour trouver, mais j'aime bien comment tu as épuré le tout, puis surtout comment tu as choisi où placer pour que ce soit stratégique de toujours là que le pouce y va. Mais c'est ce que j'aime des appareils, autant le Chromebook qu'on a parlé tantôt que le Pixel, c'est qu'on peut personnaliser nos appareils, puis deux appareils seront jamais pareils. C'est un peu comme une voiture où si tu t'assois dans ma voiture, on n'a pas placé les miroirs de la même façon, on n'a pas placé nos choses de la même façon parce qu'on doit être confortable dans notre voiture. Pour nous, parce que c'est moi le conducteur, c'est la même chose. Donc, on devrait partir un petit envoyez-nous une capture d'écran de comment vous organisez votre Pixel.
Ça serait bien, effectivement. Allez-y, envoyez-nous une capture d'écran. Allez sur le salon Discord et puis on fera un salon. Envoyez les captures d'écran, qu'on s'inspire de vous pour sortir la quintessence du bureau sur Pixel, enfin sur smartphone.
Parce qu'il y en a beaucoup aussi, des widgets, mais lesquels sont utiles fil, on vient qu'on s'y perd. Donc moi, ouais. Souvent, je m'assois, je prends du temps, puis finalement, je laisse tout comme c'était tout initialement. Ça finit en bordel.
Ça marche bien aussi. Hein. Le tout, c'est que tu t'y retrouves. Ouais. Dans Android 14, moi, j'ai une fonctionnalité que j'avais amenée comme une fonctionnalité. C'était mon coup de cœur de la dernière, du dernier épisode. C'est que mon smartphone, bon, on l'a dit, hein, c'est le meilleur appareil photo que je puisse avoir, mais c'est également la meilleure webcam que je puisse avoir. Du coup, forcément. Mm-hmm. Et dans Android 14, ils ont amené simplement la fonctionnalité webcam. Tu prends ton câble fourni par défaut dans ton Pixel, tu le branches en USB-C, tu le branches sur ton Chromebook en l'occurrence, et tu sais, dans les paramètres de USB, quand tu connectes ton téléphone en port USB, tu peux ouvrir dans les paramètres rapides à quoi va te servir la connexion USB que tu fais. Généralement, par défaut, c'est chargé. Tu vas utiliser peut-être pour transférer les photos, tu sais, le fameux NTP ou transfert de photos. Et bien maintenant, il y a un truc qui s'appelle webcam. Tu cliques dessus et tu accèdes aux deux appareils photo de ton téléphone, la photo frontale, l'appareil photo frontal. Donc, du coup, tu te vois dedans et il te sert de webcam. Apple fait déjà ça, hein, je sais, Mathieu.
Oui, j'allais dire que la marque à la pomme fait déjà la même chose et vendait même le petit support qui pouvait aller sur l'ordinateur et tout, mais qu'on pouvait aussi faire soi-même dans une imprimante 3D si on voulait.
C'est ça.
Mais bon.
Ben, on va pouvoir faire la même chose, nous. Donc, tu as la webcam à frontal. Tu peux choisir d'utiliser le capteur externe de ton smartphone pour qui est meilleur, hein, 50 mégapixels. Pixel, c'est juste bluffant. Tu peux zoomer, tu peux te servir. Donc, sur ton téléphone, tu vas zoomer pour faire ta webcam. Ça va faire ton point, ça fait l'effet bokeh, tu sais, le flou d'arrière-plan. Ça te le fait automatiquement. Et moi, je m'en suis servi dernièrement parce que moi, j'aime bien détourner les fonctionnalités. C'est mon côté un petit peu bizarre. Du coup, je m'en suis servi de scanner à main parce que je l'ai branché dessus. Puis, l'application caméra de Chrome OS a un système de scanner qui reconnaît automatiquement les coins des feuilles. Bah, j'ai pris mon truc, j'ai fait pouf, hop, voilà, c'est fait. Il m'a scanné, puis j'ai fait du multipage comme ça.
Ouais.
Ça m'a pris quelques secondes. Et par contre, bien attention d'utiliser le câble fourni avec ton smartphone, puisqu'il y a plein de types de câbles USB. Certains ne reconnaissent pas, ne sont pas reconnus comme compatibles. Donc, moi, j'ai pris... Je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui le savent dans le chat, vous me le dites. J'ai des ports USB, ils sont noirs à l'intérieur, tu sais. Il y en a, ils sont violets. Il y en a, ils sont verts. Il y en a, ils sont oranges. Je ne sais pas. Ça marche avec le violet, moi. Du coup, je sais. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs différentes à l'intérieur des ports USB. Bon,
une autre chose à aller nous mettre dans le chat, nous trouver, demander à Bard. Moi, je ne peux pas. Au Canada, on n'a pas Bard. Je ne peux pas lui demander pourquoi il y a des couleurs. Mais tu vois, cette fonctionnalité-là, moi aussi, je la détournerai en enseignement. Souvent, les enseignants vont avoir à faire des démonstrations ils doivent faire, par exemple, un bricolage, puis faire une vidéo qu'ils peuvent envoyer à la maison, par exemple, ou envoyer aux élèves, ou encore corriger des travaux, mais amener ta caméra pour pouvoir, à l'écran, expliquer ce que tu es en train de faire.
Ça marche bien, hein? Tu trouves un petit support, et tu le poses, et ça marche. Apple a une solution encore meilleure, parce que tu peux le brancher au-dessus, puis il va te cadrer.
Ouais.
Bon, bref, ça va peut-être venir, mais franchement, ça marche très, très bien. La qualité est vraiment étonnant. Tu vois, moi, j'ai pris du texte en scan, super propre, quoi. La définition n'a rien d'envier à un scanner classique. J'en ai même plus besoin de scanner en soi. D'ailleurs, j'en utilise jamais, d'ailleurs. Mais c'est vraiment super intéressant. Je crois que c'est ma fonctionnalité phare, à part le côté visuel, effectivement, la personnalisation de l'écran de veille, le thème monochrome. Tu peux, sur Android 14, avec le Pixel 8 Pro, alors le 8, je pense aussi, mais tu peux générer tes propres fonds d'écran. En fait, il te donne une phrase préfaite et tu peux changer des mots à l'intérieur de la phrase et il te génère un fond d'écran qui sera unique. Ce sera que ton fond d'écran à toi. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir le partager. Je n'ai pas vu cette fonctionnalité-là, mais ça peut être intéressant. Tu peux même avoir un fond d'écran où tu mets des emojis partout. Et puis ça te fait un fond d'écran avec un fond violet, bleu, jaune, rouge, enfin tu mets la couleur que tu veux et c'est ton fond d'écran à toi. Bon, bref, des gadgets totalement inutiles mais tellement importants. Moi je trouve ça vraiment génial. Alors je remonte un petit peu dans le chat, j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu possible d'afficher notification Chromebook pendant, alors c'est Ryan qui nous dit en tant qu'on y est, tu sais si c'est possible d'afficher les notifications Chromebook pendant qu'on regarde une vidéo en plein écran. mes notifs ne s'affichent que quand j'enlève le plein écran. Alors, sur un Chromebook, moi perso, j'ai une notification tout le temps. D'ailleurs, j'utilise beaucoup la fonctionnalité ne pas déranger. Quand je suis en vidéo, bah là, en l'occurrence, il y a marqué ne pas déranger. J'ai un petit panneau sans interdit qui est apparu. Mais sinon, je reçois mes notifications. Après, tu peux interdire les notifications d'ailleurs. Quand tu reçois une notification, tu vas dessus sur un Chromebook et tu cliques la petite flèche qui pointe vers le bas, roue dentée, et puis tu vas ne plus recevoir de notifications ou de choses comme ça. Parce que des fois, on se retrouve avec des tonnes de notifications. J'ai madame, elle dit oui à tout. Elle est sur Chrome OS, sur Chrome. Dès qu'il y a un truc, elle met oui. Elle se retrouve avec des panneaux de notifications. Je ne sais même pas comment elle peut s'y retrouver. Bref, je pense que la moitié disparaissent. Voilà, pas mal de choses. Je remonte progressivement, on peut activer automatiquement le partage. Ouais, le partage de connexion Wi-Fi qui est génial entre un Chromebook et un Android. Automatiquement, tu peux partager le réseau, ce qui fait que tu n'es pas obligé de retaper la clé Wi-Fi sur ton nouvel appareil. Ça, c'est génial. Bon, bref.
Absolument.
Voilà.
Quand on arrive quelque part et qu'on nous a donné un mot de passe long comme ça pour se connecter, puis qu'à chaque jour, il le change dans un congrès ou autre, ça m'arrive souvent. C'est absolument génial, effectivement.
Tiens, Alain qui répond au niveau de mes... Je pense que c'est pour mes ports USB de couleur. C'est une question de vitesse ou de compatibilité de charge, me semble-t-il. Fort possible. Faudrait savoir quoi, mais oui, c'est fort possible que ça soit ça. Pourquoi il est violet ? Je ne sais pas. Sur Chrome, je pense qu'on a fait le tour sur Android 14. Hein, on a déjà parlé un petit peu une heure et il va falloir que je te laisse partir. Hein, le 4 heures va arriver. On a des petites évolutions. La Pixel Watch. Alors moi, j'aime beaucoup les montres connectées parce que j'aime bien avoir des notifications sur mon bracelet aussi parce que je trouve ça sympa. Je coupe le son, j'ai que le vibreur, c'est encore mieux. La Pixel Watch, ils ont changé principalement de processeur. On était sur un Exynos 9110 de chez Samsung. Ils sont passés sur le Qualcomm Snapdragon Wear 5100. En gros, il a été gravé en 4 nanomètres, donc on est sur quelque chose de très, très bon. Hein. Et la grosse évolution, finalement, c'est que maintenant, la montre ne tient plus d'une journée en batterie. Waouh, une montre qui tient plus d'une journée. J'habite à côté de la Suisse quand je dois recharger ma montre tous les soirs, franchement. Voilà quoi. Oui. Je le dis pas à mes amis suisses, ils me détesteraient, je pense. Hein. Mais voilà, donc ça a été gravé plus fin. Ils ont rajouté des capteurs. Ah ouais, tiens, sur le Pixel Pro 8 Pro, je reviens dessus, ils ont rajouté un thermomètre. Ouais, tu peux mesurer. Ça marche pas. Mais ça ne fonctionne pas
sur les humains. C'est interdit sur les humains pour l'instant. Ça doit passer des normes et autres. Ouais. Mais ça fonctionne pour vérifier si ton thé est assez chaud, par exemple, ou ton café, ou si la cuisson. Mais effectivement, on peut pas sur un humain. Un jour, ça va venir. Ça va être intéressant. J'entendais ce matin dans un balado quelqu'un dire on va pouvoir subtilement aller voir pendant qu'un enfant dort et simplement mettre le téléphone proche puis dire c'est beau, la température a baissé, sans le réveiller puis lui dire on doit prendre ta température. Mais ça ne fonctionne pas sur les humains pour l'instant, justement parce que ça doit passer l'espèce de federal, je ne sais pas quoi, aux États-Unis là, qui doit vérifier côté humain et tout. Là.
Que sur les reptiliens, voilà. Ça va nous aider à les repérer.
On va subtilement vérifier si le collègue de bureau est un humain ou pas.
je regarde, donc on peut sélectionner nourriture et matière organique, ouais. Eau, boisson, fonte, céramique, métal et plastique, habits, bois, etc., etc. Mais effectivement, pas les humains, pas encore.
Pas les humains, pas encore. Mais puis apparemment, de choisir comme il faut justement là, le matériau qu'on aide à la précision. Mais je crois qu'il y avait une limite aussi au nombre de degrés. Donc, ça va jusqu'à un certain haut de... Ouais. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais il y a une limite.
En même temps, si tu t'approches
aussi,
trop près du soleil, ton téléphone, il sera fondu. Hein.
Ben, c'est exact. S'il commence à fondre, tu es allé trop proche. C'est trop chaud. C'était trop chaud. Voilà. Tu l'as la température.
Mais oui, ça marche. Là, je teste. Il met que mon eau est à 20 degrés, température ambiante, donc ça va. Donc, la montre vient rajouter, je saute du coq à l'âne, donc il rajoute des fonctionnalités, donc le capteur de température cutanée, justement, c'était la transition qui est intégrée dedans, qui n'était pas dans la Pixel Watch 1. Après, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Vraiment, l'autonomie. Moi, tout ce qui est sportif avec Fitbit, il y a un ça ne m'intéresse pas du tout. Savoir le nombre de pas que je fais par jour, ça me pousse à en faire plus. Mais en fait, j'ai juste à secouer ma montre comme ça, puis il croit que je fais des pas, donc c'est bon.
Se bercer donc, aussi dans une chaise berçante, ça fonctionne ouais, ça très bien aussi, pour le nombre de pas.
Donc au niveau sportif, je vois que tu as le même niveau que moi, donc c'est bien.
Voilà.
une chose qui a été plutôt décriée par pas mal de possesseurs de smartwatch type... montre connectée pour le sport, c'est que Google n'a toujours pas intégré Fitbit à l'intérieur de Wear OS, et ce qui fait que tu as deux applications différentes, ce qui pose pas mal de problèmes parce qu'il faut l'un ou l'autre, il faut, c'est compliqué. En plus, le pire, c'est que les résultats ne sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Tu as marché plus de pas sur Google Wear OS, mais tu as marché moins de pas sur... alors du coup, lequel dit vrai ? Alors, qu'est-ce qui est prêt ou pas ? Et peut-être qu'il y en a un qui calcule le fait qu'on triche. Moi, je l'avais mis sur mon aspirateur connecté, celui qui part tout seul pour voir si ça marchait. Bon, ça marche pas, il détecte pas le mouvement. Mais voilà, donc pas mal de choses sympas quand même sur la nouvelle montre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vraie montre qui dure longtemps. Moi, j'adorerais une montre qui dure... plusieurs semaines. En France, on a la chance d'avoir WeThings, la marque de montres connectées médicales, avec des fonctionnalités de sport et de température qui, elle, a une durée de vie énorme en batterie. Moi, j'attends que des montres comme ça. Donc, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pour le Wear OS. Évidemment, ils ont annoncé des Pixel Buds, mais ça ne change pas grand-chose au final. Hein. Les grosses nouveautés, c'était sur les deux autres produits qu'on vous a proposés juste avant. Je ne sais pas si tu as des choses à dire sur le Wear OS. Je sais que...
Je ne suis pas une grande fan de montres connectées, personnellement. C'est très personnel. J'imagine, j'ai essayé à peu près toutes les montres inimaginables. Moi, ce que tu disais, la vibration, elle me reste là par la suite. J'ai la vibration fantôme qui reste là à vibrer quand il n'y a pas de montre. Autant que tantôt, je disais que je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'un Chromebook sans Internet, parce que moi, j'ai de l'Internet tout le temps et dans mon quotidien. Autant que la montre, pour moi, me garde trop connectée. Je me retrouvais à enlever toutes les notifications, toutes les fonctionnalités et avoir l'heure, finalement, sur la montre. Donc, ça fait cher un peu pour lire l'heure d'avoir une montre comme ça.
Surtout qu'elle n'est pas donnée, effectivement. Hein, tu le dis bien, elle est, je crois, 300 ou 400 euros la montre. Alors que tu vas sur... ils ont toujours les Fitbit, donc tu vas sur le site, le Google Store, en fait, et il y a plein de Fitbit qui sont à des prix hyper intéressants. On en avait déjà parlé, mais on pense que la gamme Pixel Watch est considérée comme la gamme de montres plus également, donc la plus chère, qui fait plus de choses et qui est aussi plus compétente pour faire tout et n'importe quoi. Et puis, ils ont les bracelets connectés qui gardent chez Fitbit moins cher, donc plus abordable. À moins de 100 euros, on peut trouver des produits hyper intéressants. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis très amoureux des vraies montres et du coup, j'aime bien avoir le système pour avoir mes notifications parce que mon téléphone est sur le bureau, mais moi, je ne suis pas dans le bureau. Donc, ça me permet de ne pas louper certaines choses. Mais au-delà de ça, rien de telle qu'une vraie montre, je pense, en tout cas. Voilà. On a fait le tour à peu près de tout ça. Alors, je ne sais pas, je te laisse réfléchir un petit peu parce que je t'en avais pas parlé, mais peut-être que tu en as, toi. Je vais parler de mon coup de cœur, alors qui n'est pas que mon coup de cœur à moi. Hein. Ah oui, pardon, bravo. qui n'est pas que mon coup de cœur, mais c'est un coup de cœur que j'ai depuis un petit moment et c'est Christophe sur notre salon Discord qui nous en a parlé cet après-midi. Je cherchais quel coup de cœur j'allais mettre et lui, il arrive et « Ah, au fait, j'ai trouvé ça, j'utilise ça, je trouve ça génial. » Mais oui, évidemment, et c'était tellement naturel. Donc en fait, vous le savez, les Chromebooks, on peut télécharger des applications avec le Play Store, avec Linux. On peut partager en streaming les applications de son smartphone sur son Chromebook. Et puis, on peut utiliser Chrome avec les applications, les PWA, le Progressive Web App, qui permettent en fait d'avoir un logiciel SaaS dans notre ordinateur, dans notre navigateur, donc l'utiliser comme s'il était nativement installé dans le Chromebook, mais ce n'est pas le cas, il est sur les serveurs de la société. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus de PWA, d'applications web. Il y en a de plus en plus et ça devient la jungle. On ne sait pas lesquelles sont quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est dit la même chose que nous et qui a créé une application, une page web, une PWA qui s'appelle Appscope. Appscope, A-2-P-S-C-O-P-E. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, évidemment. Appscope réunit des tonnes et des tonnes et des tonnes de PWA, que ça soit des jeux, que ça soit de l'applicatif, que ça soit de la photo, que ça soit, enfin bref, tout. Et il est réuni. Et si vous avez une PWA qui n'aurait pas référencé, vous pouvez même lui dire, il y a un petit bouton, rajouter une PWA, vous lui envoyez, il va l'analyser. Il ou je sais pas si c'est une entreprise ou c'est un particulier, je n'ai aucune idée. C'est gratuit de toute façon. Il va vous rajouter par la suite les PWA et c'est une mine d'or ce truc. Donc allez y jeter un œil. Et l'avantage, c'est qu'une PWA ne s'installe pas sur votre Chromebook. Elle ne prend pas de place sur votre Chromebook. Il y aura une petite icône qui va apparaître dans votre lanceur d'application que vous pouvez épingler sur votre étagère, mais ça ne s'installe pas et donc ça ne prend pas de place. Donc, pas besoin de 128 gigas.
Voilà, donc pas besoin de Chromebook Plus. Voilà. On peut rester avec un moins. C'est comment ça. On les appelle ceux qui ne sont pas les plus?
Les autres.
Les autres.
Ça, je ne sais pas.
Moi, j'avais vu à la dernière minute ton coup de cœur, donc je vous partage le mien. En fait, c'est deux sites. Le premier s'appelle, c'est Adobe justement qui fait ça. C'est podcast.adobe.com. Il y a d'autres outils, mais l'outil que moi, j'ai utilisé, dont ce matin, c'est un outil qui améliore avec l'intelligence artificielle le son. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en création de son. On passe quelqu'un en entrevue et le son est absolument pourri. On vient pour faire le montage, on a beau jouer, monter et tout, il n'y a rien à faire. Je vous ai mis deux petits sites que je pourrais déposer dans le chat, podcast.adobe.com, qui permet un 30 minutes d'audio et on lui demande à l'aide de l'intelligence artificielle d'améliorer le son. Petit bémol, parfois, il va faire certaines coupures parce qu'il coupe aussi des silences. Des fois, il coupe pas toujours parfaitement. Donc, à essayer et à réécouter, pas se dire « c'est réglé, je mets ça en ligne », peut-être le réécouter. Sinon, l'autre, c'est aiacoustique.com qui lui donne 60 minutes par mois gratuit. Donc, souvent, moi, j'essaie un ou l'autre, puis je peux récupérer. Donc, ce matin, ça m'a permis de récupérer une entrevue que j'avais préparée où le son, j'aurais été obligée de dire « on laisse tomber ». On reprend, on refait l'entrevue au grand complet et là, elle va être en ligne demain sans problème grâce à l'intelligence artificielle et l'audio.
Ah, c'est génial. Et du coup, tu peux tricher, tu as 30 minutes plus 60, tu peux faire une heure 30, du coup, tu coupes ton... OK.
Et voilà. C'est top. On peut payer aussi, là, on pourrait, mais disons qu'avec un 30 minutes d'un côté, un 60 minutes de l'autre, on se débrouille. Je ne fais pas des balados ou des podcasts à chaque jour. Donc, techniquement, on n'a pas toujours du mauvais son, mais ça peut arriver. La personne, de ce matin, était à l'extérieur. On entendait les camions de pompiers, le son en arrière, le son n'était pas assez fort, donc ça l'a enlevé tous les sons en arrière, comme si elle parlait en studio, et ça a augmenté le son parce qu'il n'était pas assez fort. Maintenant, elle n'était pas toujours dirigée vers son micro, des fois elle se promenait comme ça, ça ne l'a pas réglé, mais ça donne quand même une belle qualité, donc ça peut récupérer des fichiers audio un peu, donc voilà.
D'ailleurs, merci beaucoup. D'ailleurs, dans les Pixel 8 Pro, ils travaillent le son également. C'est étonnant, hein. Je l'ai essayé. En appel, en fait, ça vire tous les sons parasites. Et en vidéo aussi, tu peux retravailler. Ils avaient fait une démo, d'ailleurs, où tu vois un enfant qui gazouille là. Et puis, d'un seul coup, il y a un chien qui aboie. Et du coup, pendant la vidéo, une fois que la vidéo est enregistrée, en fait, tu cliques sur un bouton et tu vires le bruit qui te dérange le plus. Certains ont enlevé l'enfant, d'autres ont enlevé le chien. Après, ça, chacun son goût. Hein. Mais c'est juste étonnant. Et le son est parfait. Et moi, j'adore. Et ça, nativement, dans ça, tu le tiens dans la main.
C'est de plus en plus simple. Ça prenait des logiciels fort complexes. Ouais. Moi, j'ai un frère qui a étudié en technique de son. Quand j'avais des mauvaises entrevues, c'est à lui que j'envoyais le tout pour qu'il puisse jouer avec et passer des heures à essayer de réparer mon fichier audio. Maintenant, on a un résultat en quelques secondes dans notre Pixel ou dans des sites. C'est pas 100% parfait. Là, je vois ce que ActuTech nous dit. Là, c'est parfois un petit peu robotique. Comme je disais, des fois, il a coupé le mot pas à la bonne place, mais quand même, ça peut aider à récupérer. On a un peu de montage à faire après, mais beaucoup d'heures de sauver grâce à l'intelligence artificielle, parfois.
Effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci Alexandra d'avoir répondu présente encore une fois sur cet épisode du podcast. J'étais heureux d'enregistrer avec toi. Je remercie tous ceux qui sont dans l'assemblée. Je fais un petit big up à Mister Robot qui vient de chapitrer en temps réel. C'est notre intelligence artificielle à nous qui chapitre en temps réel l'épisode. Donc merci à toi Laurent. Merci à vous tous. Je te souhaite Alexandra, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et puis on se revoit de toute façon dans une quinzaine de jours, comme d'habitude, pour un prochain épisode du CKB Show. Alexandra, t'hésite pas, hein, si tu as des choses à nous dire, vas-y.
Toujours un plaisir.
Merci à tous. Au revoir, bientôt.